Bonjour chers amis, bienvenue à la Daily Audio Bible, la Bible lue entièrement ensemble avec vous, par vous, pour vous, sur 365 jours, les 365 jours que compte une année. Nous sommes le 7 mai et vous êtes les bienvenus, je suis votre hôte Hervé Anneville, ravi d'être parmi vous pour lire la Bible encore aujourd'hui, la Bible, parole vivante. Et nous avons terminé le livre de Ruth hier. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, donc, nous allons entrer dans le livre suivant, à savoir celui de Samuel, 1 Samuel. Alors, je vais vous parler un peu de ce livre. Le prophète Samuel n'est pas l'auteur des livres de 1 Samuel et de 2 Samuel. On ne sait pas qui en est l'auteur. Et selon l'histoire, il semblerait qu'ils aient été rédigés au moment de la division du royaume entre Juda et Israël, les royaumes du nord et du sud. Au fil de notre lecture, nous verrons que les enfants d'Israël, qui représentaient une seule nation, vont se séparer. Continuons à descendre cette pente dont nous parlions la semaine dernière, celle de l'éloignement de Dieu. Ils continuent de s'éloigner de Dieu et ce faisant, ils font ce que nous tous nous faisons. Ils commencent à s'éloigner les uns des autres, jusqu'à se séparer en deux royaumes. Et il semblerait que les livres aient été écrits au cours de cette division. Un bon nombre de chercheurs pensent que les livres ont été rassemblés à l'origine par trois prophètes, Samuel, Nathan et Gad. 1 Samuel et 2 Samuel ont tous deux été écrits en hébreu et ils ne représentaient pas à l'origine deux textes distincts. 1 Samuel et 2 Samuel représentaient un seul et même texte. Et quand l'Ancien Testament a été traduit en grec, la version appelée la Septante, les livres ont été divisés en quatre textes connus sous le nom des livres des royaumes. Et quand l'Ancien Testament a été traduit en latin, appelé la Vulgate, ils sont devenus les livres des rois. Et ces textes ont ensuite été connus comme 1 roi, 2 rois, 3 rois et 4 rois. Et cela devient un peu confus, j'en conviens, mais essayons d'y voir plus clair, écoutez-moi. Ce qui est connu comme étant 1 Samuel et 2 Samuel était en fait 1 roi et 2 rois dans les traductions latines. Et ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant 1 roi et 2 rois était connu à cette époque comme 3 rois et 4 rois. Samuel était un personnage très influent. Il fut le premier juge d'Israël. Il était également prophète de Dieu et a servi le Seigneur comme prêtre. Au cours de sa vie, Israël était presque tombé dans l'anarchie. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Et Samuel entre en scène comme un prophète. Et cela a allégé l'anarchie car Samuel parlait directement à Dieu, ce dont les enfants d'Israël étaient un peu plus habitués. Historiquement, Israël n'avait jamais eu de roi, mais ils en voulaient un. Ils en désiraient un. Et Samuel va introduire la royauté à la civilisation et à la culture d'Israël. Et le premier roi que nous allons bien sûr rencontrer est le roi Saül, le tout premier roi d'Israël. Puis nous rencontrerons David, qui deviendra roi plus tard, et qui avait un terrible problème avec Saül. Ou plutôt, Saül avait un terrible problème avec David. Dieu a prévenu les enfants d'Israël de ne pas agir ainsi, de ne pas prendre un roi pour les gouverner. Mais comme d'habitude, ils ont choisi de faire leur propre volonté et d'introduire les rois à leur culture. Nous voyons donc les prophètes prodiguer des conseils spirituels et le roi dicter les lignes de conduite nationale. Mais ce qui se passe vraiment tout au long du livre, c'est l'établissement d'un royaume par des hommes, le royaume d'Israël, et cela sera vu comme tel à partir de ce moment-là. Alors Laurence, maintenant, nous t'écoutons.
Un Samuel, chapitre 1, au chapitre 2, verset 21. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Éliu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsuf, et était Éphraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin !» Anne répondit « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattue. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux, à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. « Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Son mari Elkana lui dit « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Seulement, que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme resta donc là, et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, « Mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Anne fit cette prière. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Elkana repartit chez lui à Rama, et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Les fils d'Élie étaient des Vauriens, qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite, c'est de la viande crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, donne-la maintenant, sinon je la prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était habillé d'un éphod en lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait lorsqu'elle montait à Silo avec son mari, pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte, et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Jean, chapitre 5, versets 1 au verset 23. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat. » Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit : Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit : en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Psaume 105, versets 37 au verset 45. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Il a étendu la nuée pour les protéger, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles, il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher, et de l'eau a coulé. Elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides. Car il s'est souvenu de sa parole sainte, et d'Abraham, son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ce qu'il a choisi au milieu des cris de joie. Il leur a donné les terres des nations, et ils ont tiré profit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Proverbe 14, versets 28 et 29. Quand le peuple est nombreux, c'est un honneur pour le roi. Quand la population manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie.
Merci Laurence pour cette belle lecture. Permettez-moi de prier. Père, Père Céleste, en lisant les livres de Samuel, nous réalisons que notre vie se reflète au travers de ces histoires. Nous savons que tu peux, oui, tu peux racheter n'importe qui et que tu t'efforces de protéger ceux qui t'aiment. Mais nous savons aussi qu'il serait préférable d'obéir à ta volonté et de suivre dès le début tes voies plutôt que de se focaliser sur nos propres besoins, nos propres désirs, et que lorsque nous tombons, nous espérons que tu trouveras une solution. Seigneur, nous te demandons, pendant que nous lisons ces histoires, de rendre très claire leur signification à nos yeux, que nous puissions comprendre chaque mot et tout ce que tu as à nous dire, que tu as à dire à notre cœur. Aide-nous à comprendre ce dont nous avons réellement besoin. Les conseils que nous avons besoin de suivre. Nous savons que la route la plus difficile, c'est de ne pas suivre ta volonté, de chercher à tout faire nous-mêmes. Donc s'il te plaît, Seigneur, apprends-nous à te consulter en premier et pardonne-nous quand nous ne le faisons pas. Oui, nous avons tous envie de dire que nous désirons te suivre de tout notre cœur. Amen. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation dans vos activités de la journée. Si vous écoutez ce podcast en début de journée, bonne journée. Si vous écoutez ce podcast en fin de journée, bonne fin de journée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et j'espère vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.